L'année 2000 marque le début d'une nouvelle décennie à Mexico et d'une nouvelle série de meurtres. Des femmes âgées que l'on retrouve étranglées chez elles. Le profil des victimes suscite une indignation et une effervescence médiatique sans précédent. Je suis Eugénie, et pour vous parler de cette affaire, je suis aujourd'hui accompagnée de Capucine et Juliette.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est l'histoire de la tueuse catcheuse. Mexico, capitale du Mexique, décembre 2005. Le ciel est bas. Dans le bureau du procureur général comme au sein de la police d'investigation, la tension monte. Depuis 2 ans, la ville est secouée par des meurtres terribles. Des femmes âgées sont tuées chez elles, avec une grande brutalité. Si les enquêteurs ont d'abord traité ces meurtres individuellement, ils doivent désormais se rendre à l'évidence. Les victimes ont peut-être été tuées par un tueur en série. Pire, d'anciennes affaires de meurtre remontant jusqu'à 6 ans plus tôt seraient très certainement l'œuvre de cette même personne. Si la police a dès 2003 soupçonné l'œuvre d'un tueur en série, elle n'a pourtant pas su voir les similitudes entre chaque affaire. Il faut dire que les meurtres de personnes âgées ne sont pas rares à Mexico, et dès la fin des années 90, la police se retrouve avec un nombre impressionnant de meurtres de personnes âgées sur les bras. C'est pourquoi il est difficile pour eux de voir un profil émerger ou des similitudes entre plusieurs affaires, dans la mesure où ils sont déjà dépassés par le nombre de meurtres. Il est également important de noter que l'histoire de la criminalité mexicaine est très différente de nos histoires criminelles françaises, européennes ou nord-américaines. Le Mexique ne connaît pas bien le principe des tueurs en série. Au début des années 2000, le phénomène est surtout étranger, et les policiers ne savent pas comment gérer ce genre de cas. Jusque-là, seul Gregorio Cárdenas avait pu faire figure de criminel de cette envergure. Premier véritable tueur en série mexicain, il avait pu tuer en quelques semaines 4 prostituées adolescentes qu'il avait étranglées chez lui et enterrées dans son jardin. De plus, la justice criminelle mexicaine manque de ressources. Au début des années 2000, existe très peu de spécialistes capables d'identifier des schémas de comportement criminel et d'étudier les similitudes entre les affaires. Pour avancer, ils vont jusqu'à faire appel aux autorités françaises, qui envoient une équipe de spécialistes pour former plus d'une centaine d'officiers et obtenir un profilage plus précis. Car la France a fait preuve de succès dans le passé avec une affaire similaire. Thierry Paulin, surnommé le tueur de vieilles dames ou le monstre de Montmartre, reconnaît en 1987 avoir tué 21 personnes et est soupçonné d'en avoir tué jusqu'à 38. Bien que les enquêteurs de Mexico apprennent beaucoup des méthodes françaises, certaines ne peuvent s'appliquer au Mexique, car les habitudes et les visions des choses y sont très différentes. De plus, les preuves récoltées sur les lieux des crimes ne suffisent pas à avancer davantage sur le profil du meurtrier. Pourtant, le travail d'enquêteur est fondamentalement différent quand il s'agit de chercher un seul tueur pour plusieurs victimes et plusieurs tueurs pour plusieurs meurtres isolés. Ce n'est donc qu'en 2005 que la police parvient définitivement à relier entre elles plusieurs affaires de meurtres de femmes afin de dégager un mode opératoire qui permettra peut-être de trouver l'assassin de toutes ces femmes. Les enquêteurs remarquent que dans de nombreux cas, les victimes sont mortes étranglées avec une paire de collants ou un câble électrique comme des armes improvisées qu'il est possible de trouver dans n'importe quelle habitation. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de traces d'effraction, signe que les victimes ont suffisamment confiance en leur agresseur pour le laisser entrer. Par ailleurs, de nombreux témoignages mettent en avant la présence d'un travailleur social ou d'une infirmière autour des lieux du crime, avant que celui-ci soit commis. Cet élément permet à la police de chercher quelqu'un qui serait soit dans le domaine du social ou de l'aide à la personne, soit quelqu'un qui se ferait passer comme tel. Car il est à noter que les fraudes aux aides sociales sont légion dans le Mexique au début des années 2000. D'autres éléments sont similaires sur chacune des scènes de crime. Quelques objets sont volés, mais la motivation limitée au seul cambriolage laisse les enquêteurs sceptiques. Car les vols ne sont pas assez significatifs pour sembler être le mobile unique du meurtre. et les victimes sont souvent des femmes âgées qui ont besoin des aides de l'État pour survivre, donc des victimes qui ne sont pas fortunées. Les preuves matérielles ne sont pas faciles à collecter pour la police, car au Mexique, la population n'a pas conscience qu'il faut préserver la scène du crime. Alors souvent, avant l'arrivée de la police, la famille nettoie la scène de crime et déplace le cadavre pour ne pas le laisser dans une position humiliante. Trois des quatre dernières victimes possèdent une reproduction du tableau intitulé « Garçon à l'habit rouge » de Jean-Baptiste Greuze. Une coïncidence qui ne laisse cependant pas d'intriguer la police. Parmi les victimes que la police associe au tueur en série, il y a Maria de la Luz González Anaya, tuée le 25 novembre 2002. Elle avait 64 ans et vivait seule. Elle a été affreusement battue, puis étranglée à main nue sur le canapé. Son appartement a été mis à sac. Sur la scène de crime, les enquêteurs prélèvent des empreintes qui ne trouvent malheureusement aucune correspondance dans la banque de données. À ce moment-là, les journaux mexicains titrent en parlant déjà d'un tueur en série qui tue des vieilles dames et le surnomment « El Matavieritas », c'est-à-dire « le tueur de petites vieilles » ou « le tueur de mamie », en associant entre elles plusieurs affaires qui pourraient être isolées. La tension est à son comble et la rumeur circule, qu'elle soit fondée ou non. Un tueur de vieilles dames frappe au Mexique. Pourtant, quand le surnom est donné, il s'agit peut-être, comme la police le croit, d'affaires isolées. Peut-être qu'un tueur en série ne court pas encore, et peut-être qu'un tueur isolé a l'idée d'en commettre d'autres, sous l'influence des journaux. La police dénombre entre 9 et 12 cas de meurtres non résolus, rien qu'en 2005, et une trentaine au moins depuis 1998. Elle décide alors de prendre les choses en main. La psychose s'est installée à Mexico, et les services de la ville distribuent des milliers de prospectus mettant en garde les femmes seules. Une unité spéciale est mise en place pour patrouiller dans les parcs et jardins publics. On recommande la plus extrême vigilance aux femmes. Les enquêteurs ont plutôt l'impression que le criminel appartient à la catégorie des tueurs désorganisés. Les meurtres ne semblent pas prévus à l'avance, mais plutôt commis sous le coup de l'impulsion. Les armes du crime sont laissées sur les scènes de crime. Bien que le criminel soit alors susceptible de commettre plus de fautes, il est presque impossible d'anticiper son prochain meurtre. D'autant plus que dans le cas d'un tueur en série, le crime est souvent davantage un crime d'opportunité, qui est le résultat d'une rencontre fortuite entre la victime et le meurtrier. Sans correspondance dans les relevés ADN dans la banque de données, la traque peut donc se révéler longue et difficile. Les premiers témoignages quant au physique du meurtrier permettent aux enquêteurs d'établir un portrait robot. Une femme dont la tante, Gloria Enedina Rizzo, 81 ans, est retrouvée étranglée à l'aide d'un câble, informe les policiers qu'une travailleuse sociale portant l'uniforme des travailleurs sociaux mexicains, chemise rouge et pantalon noir, est venue chez sa tante pour l'aider avec une demande que sa tante avait faite concernant une aide pour les personnes âgées. Elle dit avoir laissé sa tante seule avec la travailleuse sociale et n'avoir pas demandé à voir ses papiers ou à avoir son nom. Elle est cependant capable d'établir plus ou moins un portrait robot. Et elle n'est pas la seule. À l'époque, dans ses communiqués, la police décrit le suspect comme étant un homme déguisé en femme ou bien une femme imposante à la peau rougeâtre. Il est âgé d'environ 45 ans, le visage élancé, les cheveux blonds. Au-delà des portraits robots, ils vont jusqu'à reconstituer un buste en argile avec de courtes mèches blondes et une tache de naissance sur le menton, décrit dans plusieurs témoignages. Il est assez rare qu'une enquête ait recours à ce type de reconstitution. S'ils recherchent un homme plutôt qu'une femme, c'est à cause de la force que requiert chacun des meurtres. La strangulation telle que produite sur les victimes ne peut être le résultat que d'un physique imposant et féroce. De plus, les témoins décrivent une personne assez grande, d'1m75 environ. Il est à noter qu'au Mexique, la taille moyenne pour les hommes est d'1m70 et pour les femmes d'1m57. Le profil psychologique fait état d'un homme homosexuel ou bisexuel aux tendances violentes, quelqu'un qui fréquenterait plus de femmes que d'hommes et qui entretiendrait des relations proches avec les personnes âgées. Les enquêteurs sont persuadés que le suspect présente une intelligence hors norme, mais aussi une haine contre une figure féminine de sa vie. Dans la mesure où les témoins ont évoqué une femme, travailleuse sociale ou infirmière, les policiers se mettent donc à la recherche d'un homme qui se travestirait en femme pour commettre ses crimes. Ils interpellent alors plusieurs dizaines d'hommes dans les bars LGBT de Mexico. 49 personnes sont placées en état d'arrestation sans la moindre preuve de leur implication dans les meurtres. Ces manœuvres placent la police sous la critique des médias et de la population. Pourtant, la police a pensé plusieurs fois être sur la bonne piste et pouvoir mettre fin au meurtre. En octobre 2003, elle arrête le premier suspect majeur, Araceli Vasquez. L'empreinte de cette dernière est retrouvée sur un verre au domicile de Gloria et Nedina Rizzo. Le profil d'Araceli correspond au profil du tueur décrit par les témoignages. Elle est reconnue par 4 personnes à qui elle avait faussement promis une aide financière. Elle est aussitôt vue comme le Mata Vieritas. Elle reconnaît avoir commis plusieurs vols, mais elle nie fermement tous les meurtres que la police lui attribue, pensant avoir trouvé son criminel tant recherché. Elle est condamnée à 42 ans de prison pour divers vols et pour le meurtre de Gloria. Les autorités se félicitent d'avoir enfin condamné celle qui terrorisait la population. Mais la satisfaction est de courte durée, car les meurtres reprennent de plus belle. En septembre 2004, un homme du nom de Jorge Mario Tabla Silva est inculpé du meurtre de 4 femmes âgées, bien que 2 charges aient été abandonnées par la suite. Comme Araceli Vasquez, une empreinte digitale appartenant prétendument à Tablas a été trouvée sur les lieux du meurtre d'une victime, Maria Guadalupe González Juanbels. Le dossier révélera plus tard que les preuves de sa culpabilité étaient fausses. Et malgré cette condamnation, les crimes continuent. Fin 2005, les autorités mexicaines sont donc toujours au point mort, malgré tous les efforts déployés dans la traque du tueur. Cet enlisement obtient d'autant plus de visibilité que l'année 2006 est marquée par la campagne présidentielle. Les 2 candidats opposés font de l'affaire du Mata Vieritas un enjeu politique au cœur des débats. La pression sur les enquêteurs ne fait que s'intensifier.
Le 25 janvier 2006, dans le quartier des Venustiano Carranza de Mexico, Ana María de los Reyes Alfaro, 89 ans, ouvre la porte de son appartement à une femme grande et corpulente d'environ 50 ans, vêtue d'un manteau rouge et d'un pantalon noir. Celle-ci se présente comme étant assistante sociale et lui propose de l'aider à s'inscrire au nouveau programme d'allocation mis en place par le gouvernement pour les seniors. Ana María accueille sa visiteuse avec joie. Malheureusement, à peine celle-ci a-t-elle passé le pas de la porte qu'elle s'empare d'un stéthoscope et étrangle la vieille dame pendant de longues minutes. Mais cette fois, le crime est découvert quasi instantanément par le locataire de la victime, José Roel López González, intrigué de trouver sa porte ouverte. Il voit une femme s'enfuir et sort immédiatement pour crier au meurtre. Il attire tout de suite l'attention de 2 patrouilleurs, les policiers José Ismael Alvarado Ruiz et Marco Antonio Clásico González, et leur indique la direction qu'a pris la femme. Ceux-ci se lancent à sa poursuite et la retrouvent quelques rues plus loin. Ils arrivent à l'intercepter et à la neutraliser, bien qu'elle se défende avec force. Il faut dire qu'elle est grande et puissante. Le locataire qui a donné l'alerte reconnaît la femme comme étant la personne fuyant l'appartement d'Ana María Alfaro quelques instants plus tôt. Elle porte sur elle une fausse carte d'assistante sociale et des formulaires d'inscription au programme dédié aux seniors mis en place par le gouvernement. Pour cette alerte et cette arrestation, José López González et les 2 policiers se voient remettre la récompense de 1000 pesos. De plus, les patrouilleurs reçoivent une promotion. Une fois remise aux mains des enquêteurs, ceux-ci observent la ressemblance frappante entre la femme récemment arrêtée et le buste en argile fabriqué quelques mois plus tôt pour faire avancer l'enquête. Ils se rendent rapidement au domicile de la suspecte, où ils font d'étranges découvertes, telles qu'un serpent dans une bouteille, des pommes disposées comme une sorte d'offrande, mais aussi des photos d'elle dans une tenue de catcheuse. Ces photos paraissent surprenantes, mais elles le sont moins quand on connaît l'identité de la femme en question. Il s'agit de Juana Dayanara Barraza Samperio, plus connue sous le pseudonyme de la Dama del Silencio ou la Dame du Silence, dans le milieu du catch mexicain. Lors de son interrogatoire, Juana confesse uniquement le meurtre pour lequel elle a été prise sur le fait, celui d'Ana María Alfaro. Elle ne dit rien sur les autres crimes dont lui parlent les enquêteurs. Elle ne veut d'ailleurs pas parler des crimes tout court. Sa seule obsession est de mettre ses enfants en sécurité, car elle informe la police qu'ils sont seuls chez elle et qu'il faut que sa fille aînée, Erika, passe les récupérer. Quelques heures plus tard, une conférence de presse est tenue par le chef de la police, le responsable de l'enquête et le secrétaire général du gouvernement. Ils déclarent que Juana n'a avoué que le meurtre perpétré plus tôt ce jour-là. Ils annoncent également une excellente et capitale nouvelle. Bien qu'elle n'accepte d'avouer que le meurtre pour lequel elle a été prise en quasi-flagrant délit, les policiers ont pu établir son lien avec d'autres victimes, car ses empreintes ont été retrouvées sur 10 autres scènes de crime et tentatives de cambriolage. Fait assez inhabituel, l'inculpée est présente devant les caméras lors de cette conférence. L'attente était telle pour cette enquête que les autorités en sont fières. Juana pose même en photo à côté du buste en argile. La scène est surréaliste. La criminelle se montre calme et impassible pendant toute la conférence de presse et répond aux questions des journalistes en souriant. À la question « Pourquoi vous attaquez-vous à de vieilles dames ?» celle-ci répond qu'elle a besoin d'argent. Juana est à la une de tous les journaux qui déclarent que le règne de la Mater Veritas est terminé. Pourtant, celle-ci clame son innocence sur les autres meurtres en série. Après tout, la police cherche un homme, alors pourquoi reconnaître Juana comme responsable? Une question est alors sur toutes les lèvres. Qui peut bien être la tueuse de vieilles dames qui s'est fait connaître pour sa carrière dans le catch mexicain appelé la lucha libre, qui signifie « la lutte libre ». Juana Dayanara Barraza Samperio naît le 27 décembre 1957 dans un village très pauvre de la campagne d'Hidalgo, au Mexique. Son père, Trinidad Barraza, est membre de la police judiciaire et possède un élevage de bétail. Sa mère, Rusta Samperio, n'a que 13 ans quand elle rencontre Trinidad en se prostituant en boîte de nuit. De cette relation naît également Andrela, la sœur de Juana. Quand elle n'a que 5 ans, la petite Juana voit ses parents mettre un terme à leur relation. Elle est alors séparée de sa sœur Andrela, qui part vivre avec leur père, tandis qu'elle reste auprès de sa mère. Juana et sa mère Rusta s'installent chez la mère de Rusta, qui vit alors avec son nouveau compagnon, Refugio Samperi. La relation amoureuse entre cet homme et la mère de Rusta n'arrête pas Rusta, qui jette son dévolu sur Refugio Samperi. La mère de Juana, Rusta, se met donc en couple secrètement avec le nouveau compagnon de sa propre mère. Pendant ce temps, Juana n'a pas le droit de sortir de la maison. Elle est assignée à faire les corvées domestiques. Elle ne va pas à l'école et n'a pas accès à l'éducation. À la maison, personne ne lui apprend ni à lire ni à écrire. La vie avec Rusta est insupportable pour la petite Juana. Très régulièrement, elle est victime de brimades, de coups et d'injures par sa mère, alors qu'elle passe son temps à réaliser des tâches ménagères et à venir en aide à sa mère. Les premières années de la vie de Juana se passent dans un environnement violent et malsain. N'ayant aucune relation affective avec sa mère, c'est auprès de Refugio Samperi qu'elle trouve finalement une figure paternelle. Malheureusement, Refugio ne parvient pas à la protéger des abus de sa mère alcoolique. À l'âge de 12 ans, Juana est prostituée de force par sa mère pour 3 bières à un homme prénommé José Lugo. Les abus de José Lugo sont ensuite répétés et ce pendant 4 ans. Il la viole régulièrement et en résulte 2 grossesses à 13 et 16 ans. La première aboutit à une fausse couche et de la seconde naît un petit garçon, que Juana appelle José Enrique Lugo Barraza. La jeune fille n'a nulle part où aller, car elle ne sait ni lire ni écrire. En désespoir de cause, elle reste avec son violeur, alcoolique, pervers et violent, jusqu'au décès de sa mère d'une cirrhose du foie, en 1980. Elle trouve ensuite le courage de prendre son indépendance malgré la précarité dans laquelle elle se trouve avec son fils. Elle trouve tout de même des petits boulots à Mexico, ville dans laquelle elle déménage. Juana commence par vendre des légumes et des vêtements sur les marchés, puis complète avec des ménages. Elle fait alors la rencontre de Miguel Andrel Barrios Garcia, malheureusement alcoolique et violent comme sa mère, et José Lugo. Juana tombe enceinte et accouche d'une fille, qu'elle choisit d'appeler Erika. Quelques années plus tard, son beau-père et seul repère stable dans sa vie, Refugio, décède. Juana décide de quitter Miguel après 4 ans de mariage pour emménager avec Félix Juarez Ramirez, un chauffeur de bus. 2 enfants naissent de leur histoire. Félix ne gagne pas assez pour subvenir aux besoins de ses enfants et Juana doit toujours travailler plus pour nourrir ses 4 enfants. Elle est maintenant vendeuse de sandwichs et de pop-corn lors de matchs de la lucha libre. La lucha libre, ou combat libre, implique généralement des combats titanesques entre des combattants portant des noms et des costumes de personnages de dessins animés, identifiés comme étant soit des technicos, des gentils qui se battent selon les règles, soit des rudos, des méchants qui les enfreignent. Ce sport de combat est particulièrement suivi au Mexique et implique beaucoup de violence et de douleur. Au début des années 90, Juana est repérée par un coach de la ligue qui parvient à la convaincre de lutter. Il faut dire que Juana en impose. Elle est exceptionnellement grande pour une femme mexicaine et elle est très massive. L'idée est séduisante, chaque match pouvant lui rapporter entre 200 et 500 pesos, soit bien plus que son maigre salaire de vendeuse. Interviewée par une grande chaîne de télévision lors d'un événement de lutte juste quelques semaines avant son arrestation, Barraza se décrit comme le méchant, rudo jusqu'à l'âme. Elle est souvent vue au premier rang des arènes établies et organise également des événements de lutte pour les fêtes des petites villes, se battant occasionnellement elle-même sur le ring. Son personnage de lutte a pour nom la Dama del Silencio, la Dame du Silence, pour faire écho à son tempérament timide et calme. La Dame du Silence est une figure imposante dans l'arène du catch mexicain, grâce à sa stature imposante et ses prises redoutables qui clouent ses adversaires au tapis. Malgré cette apparence intimidante, elle ne dégage pas une aura de méchanceté. Elle préfère arborer une combinaison rose et dorée, assortie de bottes montantes, et un papillon doré orne sa ceinture. Son masque représente un grand papillon, avec de simples ouvertures pour les yeux, et recouvre son visage en laissant deviner à l'arrière une coupe de cheveux courte et peroxydée. En dehors du ring, Juana se lie d'amitié avec d'autres lutteuses et passe beaucoup de temps dans l'arène, où elle assiste au match avec ses enfants. Cependant, sa carrière de lutteuse a un coût. Ses combats répétés lui ont causé des problèmes de dos, pour lesquels elle trouve du soulagement au Mercado de Los Burros, où elle achète des baumes pour apaiser ses douleurs. Et bien malheureusement, la chance de Juana finit par tourner. Elle se sépare de Félix, son mari, en 1994. D'autres prétendent qu'il aura trouvé la mort au cours d'une fusillade de gang. Dans tous les cas, après 10 ans de mariage, Juana est à nouveau seule. Elle a toujours 4 enfants sous sa garde. L'aîné, José Enrico, a 21 ans. Erika, sa première fille, en a 12, et ses 2 autres enfants sont en bas âge. À 41 ans, elle jongle entre différents petits boulots, en plus de ses activités de lutteuse. Elle vend des chaussettes, des sucreries et travaille même dans une chocolaterie pour joindre les deux bouts.
Malheureusement, aucun des pères de ses enfants ne lui apporte un soutien financier, laissant Juana seule pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa carrière de lutteuse, bien que source de revenus, ne pourra pas durer éternellement, car les dommages physiques qu'elle subit sont importants. Juana souffre de plus en plus, et elle n'est pas sûre de pouvoir continuer longtemps ce travail qui lui apporte pourtant des revenus absolument nécessaires à sa survie, ainsi qu'à celle de sa famille. Juana oscille donc entre ce travail qui la blesse physiquement et lui laisse des séquelles très douloureuses, et l'idée de tout arrêter et de perdre ses revenus complémentaires qui leur sont, à elle et ses enfants, désespérément nécessaires. C'est en 1995 qu'elle commence à voler des articles en magasin, dans les voitures, et même à braquer quelques personnes avec un pistolet en plastique. Elle s'attaque déjà à des proies faciles, et par opportunité, notamment des vieilles femmes. Les revenus ne sont pas énormes, mais lui permettent coûte que coûte de nourrir ses enfants. En 1996, avec l'aide de son amie Araceli Tapia Martinez, elle élabore son premier plan criminel, se revêtir de tenue d'infirmière pour gagner la confiance des victimes âgées et les cambrioler. Juana se sépare assez vite de sa complice, qui d'ailleurs cherche à l'extorquer pour continuer son plan criminel. Elle fait maintenant des ménages chez les personnes âgées, lui permettant de gagner leur confiance et de s'introduire chez elle sans éveiller les soupçons. En 1997, Juana vit un drame terrible. Son fils aîné, José, âgé de seulement 24 ans, meurt dans une fusillade. On ne sait pas s'il s'agit d'un règlement de compte entre gangs ou d'une simple agression qui aurait mal tourné. Quoi qu'il en soit, Cette nouvelle laisse Juana dans le désespoir le plus total. Les années suivantes, Juana a toujours deux bouches à nourrir, sa fille Erika ayant quitté le domicile familial. Elle oscille alors entre ses ménages, lui permettant de cambrioler, ainsi que la lutte. Elle tente d'organiser quelques matchs de catch en parallèle, mais sans grand succès. Les matchs de la Dame du Silence l'épuisent physiquement. Non seulement le dos de Juana la fait souffrir, mais ce sport peut également causer d'importants dommages au cerveau, à l'instar d'autres sports violents. Les commotions cérébrales ne sont pas rares et peuvent aller jusqu'à entraîner des maladies neurodégénératives et des encéphalopathies traumatiques que l'on décèle post-mortem. Cette affection cérébrale peut provoquer des changements de personnalité, des difficultés à contrôler ses impulsions, des comportements agressifs, jusqu'à devenir source de démence. Plusieurs athlètes ayant commis des meurtres et des suicides souffraient de lésions inhabituellement graves dues à l'encéphalopathie traumatique chronique, comme l'ancien joueur de football américain Philip Adams, qui a abattu 6 personnes avant de se donner la mort en avril 2021. Ou comme Chris Benoit, grand champion de catch canadien, ayant étranglé sa femme, étouffé son fils et s'étant suicidé en juin 2007. Seule une autopsie de Juana pourra déterminer un jour si celle-ci est affectée par ces lésions. C'est à 43 ans, en 2000, qu'elle arrête sa carrière. Épuisée, malmenée par son passé, illettrée et ruinée, Juana se trouve probablement en grande détresse physique, psychologique et financière. Bien que nous ne sachions pas précisément quand a lieu son premier meurtre, nous pouvons avec certitude évoquer celui du 25 novembre 2002, que les témoignages de la police scientifique attribuent à Juana. La victime a 64 ans et se nomme Maria de la Luz González Anaya. Le procès de Juana commence au printemps 2008. Elle continue de limiter ses aveux à un seul meurtre, celui pour lequel elle a été arrêtée. Le procureur de la République aimerait l'inculper pour pas moins de 40 meurtres. Il est en tout cas certain qu'elle est impliquée dans au moins 10 autres cambriolages et assassinats, sur les lieux desquels elle a laissé ses empreintes digitales. Le procès se tient à huis clos et ne comporte pas de jury, à l'inverse du système français. Seul le juge donne son verdict après avoir écouté les arguments de la partie civile et de la défense, tour à tour. Au cours du procès, l'accusée explique qu'elle ne prémédite pas ses cambriolages longtemps à l'avance, mais plutôt par opportunisme. Elle les repère au marché, dans les jardins publics et les centres commerciaux, et gagne leur confiance rapidement. Juana ne parle pas de préméditation. Pourtant, elle choisit tout de même ses cibles. Ses avocats plaident l'aliénation mentale et mettent en lumière son passé douloureux et les années de maltraitance pour justifier la violence de ses actes. Le 31 mars 2008, Juana Barraza est reconnue coupable de 11 meurtres et condamnée à 759 ans de réclusion criminelle. À la barre, elle ne reconnaît toujours que le meurtre d'Alfara, déclarant « Je déteste les dames parce que ma mère me maltraitait, me frappait et m'insultait tout le temps. Un jour, elle m'a laissée avec un homme et j'ai été abusée. C'est pourquoi je déteste les dames. » À l'annonce du verdict, elle s'effondre en larmes de peur de ne pas survivre en prison. Pourtant, au Mexique, les peines sont cumulables pour une durée maximum de 50 ans d'emprisonnement. Juana pourrait donc être libre en 2058, l'année de ses 100 ans. Après l'annonce de la condamnation, le procureur général autorise les chercheurs à procéder à des tests psychologiques avancés sur les motivations de Juana. L'un de ses médecins fait état d'une forte probabilité chez Juana d'être submergée par des souvenirs douloureux lorsqu'elle se trouve chez ses futures victimes. Il serait possible qu'elle cherche à exorciser son passé en commettant ses crimes. Le parallèle entre ces vieilles dames et sa mère a souvent été fait par les experts étudiant l'affaire. Par ailleurs, certains pensent que le mode opératoire choisi par Juana n'est pas anodin. L'étranglement par des câbles électriques pourrait lui rappeler ce que lui a fait subir José Luego lorsqu'elle était jeune en étant attachée et violée. Juana est interrogée pendant 7 jours par l'un de ses chercheurs pour étudier les variations de son activité cérébrale lorsqu'elle est exposée à une série d'images agréables, neutres et désagréables. Face à la vision de déchets ou d'un bouquet de fleurs, Juana montre des signaux similaires. Ces études tendent ainsi à démontrer que ce type de réaction pourrait expliquer pourquoi un sujet peine à ressentir de la peur ou de la culpabilité et aurait des facilités à passer à l'acte. Juana Barraza est toujours incarcérée à la prison Santa Marta de Acatitla, à Mexico. Du lundi au mercredi, elle prépare des tacos qu'elle vend dans la cour de la prison. Pendant une brève période, elle est mariée à un autre détenu, Miguel Angel, 74 ans, hébergé dans l'unité pour hommes de Santa Marta. Celui-ci aurait conquis le cœur de Juana grâce à une série de lettres pendant près d'un an. Les deux criminels se sont mariés aux côtés de 48 autres prisonniers. Décrite par le média espagnol El País comme une cérémonie collective, la réception auquel le couple de criminels a pu participer comprenait de la musique, de la nourriture et bien sûr un gâteau. Leur mariage a été rendu possible grâce au programme gouvernemental Lazos en Reclusión, qui se traduit par « lien en confinement ». Cependant, le couple se sépare après un an, Juana ayant passé moins d'une heure au total avec son mari. Quant au premier suspect condamné dans cette affaire, Araceli Vázquez est elle aussi toujours incarcérée. Malgré la condamnation de Juana, sa peine n'a jamais été commuée. Elle est à ce jour totalement ignorée par le système judiciaire mexicain. « Je veux que les gens sachent que je n'ai pas tué cette femme. Les preuves sont là. Ça fait 18 ans que je me tais », a-t-elle déclaré en septembre 2022 dans les colonnes du journal El País. Selon le journaliste Antonio Baranda, Jorge Mario Tablas Silva serait mort en prison et jamais innocenté.
Bonsoir à tous, bienvenue dans notre podcast Parmi nous le diable. Alors pour cette affaire que j'ai étudiée, que j'ai traitée, j'aurais pu vous citer quelques œuvres auxquelles j'ai pensé hein, en traitant cette affaire, mais qui n'avaient pas vraiment de lien très fort ou en tout cas sur des choses très futiles. J'ai pensé par exemple à Attrape-moi si tu peux, où le criminel se déguise pour arriver à ses fins. Encore plus extrapolé, j'ai pensé à OSS 117, Rio ne répond plus, parce que les méchants sont des catcheurs de lucha libre, donc vous voyez un peu le... Non, donc je n'ai pas... voilà, il n'y a pas d'œuvre particulière qui m'est venue à l'esprit. En revanche, je préfère vous citer un auteur, voilà, qui est tombé au gré de mes recherches, qui a très bien résumé, selon moi, la richesse de cette affaire, tout ce qu'elle raconte. Parce qu'en... Pour moi, ce n'est pas une affaire très originale, mais elle a plein d'aspérités, d'éléments qui, en fait, révèlent au fur et à mesure voilà, de sa construction une histoire finalement passionnante, moi, que je ne connaissais pas trop en plus, qui dit des choses aussi sur la culture mexicaine, sur cette époque, sur beaucoup d'autres choses. Voilà, donc je vais vous le citer. Il s'appelait Pablo Picato et il est auteur d'un livre qui s'appelle Une histoire de l'infamie, crime, vérité.
Si je peux me permettre, excuse-moi, mais c'est Pablo Picasso.
Pardon, c'est vrai, le vrai. C'est vrai qu'il a pas mal étudié l'affaire de Juana.
Oui, mais écoute, soit on est culturé, soit on l'est pas. Enfin.
Non, mais voilà, en plus, je vous le cite. J'ai lu que quelques extraits, je n'ai pas lu le livre. Je vous avoue que je n'ai pas assez de temps pour lire un livre qui s'appelle Une histoire de l'infamie, crime, vérité et justice au Mexique. Mais en tout cas, peut-être vous, mais pas moi. J'aimerais bien. Donc, je vous le cite simplement parce que, de manière beaucoup plus intelligente, il résume, je trouve, bien cette affaire. Voilà. Donc, il écrit « C'est une affaire qui a remis en question ce que les Mexicains pensaient savoir sur la criminalité. À travers cette affaire, nous voyons comment la négligence de certaines victimes et la criminalisation de celles qui ne se conforment pas aux normes de genre contribuent au niveau de violence déshumanisant dont le Mexique est témoin aujourd'hui. » Voilà, ça dit beaucoup de choses de cette affaire. Il aurait pu encore en dire beaucoup plus. Et d'ailleurs, je pense que dans son livre, c'est le cas. Et donc, cette affaire, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions en traitant cette affaire. Je vais vous en citer deux, trois. Vous allez répondre à celle que vous voulez. Peut-être à celle qui vous parle le plus. Déjà, je me suis demandé si Juana n'avait pas arrêté sa carrière de catcheuse, est-ce qu'elle serait devenue une serial killeuse? Est-ce que c'était justement un échappatoire qui lui était utile ou est-ce qu'elle devait transcender son passé voilà, en allant dans la criminalité? C'est lié à ma deuxième réflexion, ma deuxième question sur la responsabilité des pères qui n'ont pas été présents, qui ne l'ont pas soutenue, qui l'ont laissée avec quatre enfants à nourrir et dans une détresse
qui l'a probablement poussée en partie. On ne peut pas l'expliquer que comme ça, mais voilà, moi, la responsabilité des pères m'a interrogée. Et bien entendu, et ça, ça revient beaucoup dans les articles, voilà, dans les médias, sur cette affaire, c'est le fait que les enquêteurs aient tenu absolument à ce que le criminel soit un homme. De par les statistiques, les clichés, ça a conduit à beaucoup d'abus et peut-être probablement à une certaine lenteur à trouver le criminel. Donc voilà, il y a plusieurs questions là-dedans. Voilà, on n'est pas obligé de tout traiter.
Je suis désolée, je me souviens plus des questions. Il y en a trop.
Est-ce que vous préférez parler justement du fait qu'il soit vraiment concentré en se disant c'est forcément un homme, de toute façon ça, pour faire ça c'est un homme, c'est quelqu'un de costaud donc c'est un homme, avoir voilà cette version cliché qui a, ou alors sur son côté plutôt sur son caractère, sur son passé. Il y a Groucho qui est parmi nous, le chien, notre mascotte du podcast.
Notre mascotte à qui parfois j'ai vraiment activement envie de couper les cordes vocales. Je sais que c'est de la maltraitance animale, donc je ne le fais pas. Et puis je n'ai pas de diplôme en vétérinaire.
Puis je suis aussi la marraine de Groucho, donc je ne veux pas.
En fait, t'es la marraine de tous mes enfants.
Oui, c'est vrai.
Aucune originalité, quoi.
Voilà, je ne sais pas en tout cas vous en lisant l'affaire s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, mais moi je l'ai trouvée très étonnante. Voilà, c'était pour avoir votre avis.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'est en effet il y avait beaucoup de choses qui interpellaient un peu toutes celles que tu as dit. En fait, c'est difficile d'en choisir une, mais c'est vrai que moi ce qui m'a le plus interpellée, je dirais, c'est quand même la détresse de cette femme. Et on dirait que la seule opportunité ou la seule chose positive un peu qui lui arrive, c'est cette opportunité qu'elle a en effet de devenir catcheuse. Et au final, on dirait que ça se retourne un peu contre elle et que ça lui apporte encore plus de difficultés, notamment sur les conséquences, les séquelles physiques et tout ça. Et après, ça la met encore plus dans une détresse. Donc c'est très triste en fait. Très triste. Et après, en revanche, sur les motifs qui l'ont amené à tuer les femmes. Je sais pas si c'est seulement, je pense, c'est pas le cas, mais elle dit qu'on pense au début que c'est pour voler, mais c'est vrai que je pense qu'elle a une haine entre elles et elle le dit à la fin, elle a une haine contre les femmes, quoi. Donc, on sait pas si c'est pour, si, tu vois, je sais pas si elle avait en gros réussi dans sa carrière de catcheuse et que économiquement elle aurait été à même de subvenir à ses besoins. Est-ce qu'elle n'aurait quand même pas gardé un peu cette haine des femmes sous-jacente en elle, et je sais pas. C'est un mystère.
Mais comme tu le suggères, ça a pu être, dans l'affaire, ça a pu être aussi créé par tous les traumatismes crâniens répétés qu'elle a subis. Ouais. Et donc, de fait, on peut supposer que si elle n'avait pas été catcheuse, elle n'aurait pas non plus été tueuse.
Ouais, il y a beaucoup de, là c'est beaucoup de suppositions en effet, mais franchement il y a des cas où vraiment on se dit que il y a une dans pas mal d'affaires où tu vois c'est un truc dans le criminel en lui qu'il arrivera pas, tu vois, il y a des, comment dire, on l'a vu beaucoup dans beaucoup d'affaires, et ça tu l'as pas mal fait remarquer, Capucine, tu vois, ils s'en prennent d'abord peut-être à des petits animaux et puis c'est une escalade pour des serial killers, quoi.
Le triangle de, je sais plus comment ça s'appelle. Là. Ouais.
Le schéma plus classique pour des serial killers. Enfin, tu vois, là, on est quand même sur un bon paquet de meurtres, quoi. On n'est pas juste sur un simple fait.
Si je peux me permettre, elle a tout du serial killer sur son histoire. Sa mère abusive, avec sa mère alcoolique. Si on regarde la plupart des tueurs en série, ont au moins un parent alcoolique, ont subi des attouchements sexuels, ont découvert, ont eu leur identité complètement remise en cause. Et là, je pense qu'on peut dire que, ayant été prostituée très jeune, il y a eu un peu ce truc de non-protection du parent. Et
ça, c'est... on peut le dire, oui.
Écoutez, j'ai pas peur de prendre des risques sur ce que je dis. Mais je pense que sa mère n'a pas été une mère exemplaire, voilà.
C'est dit.
Et si ça vous choque, eh bien, tant pis. J'assume. Non, mais c'est enfin, entre les abus sexuels, l'alcoolisme, ce truc où elle va revivre chez sa grand-mère parce que finalement, ouais, ils ont plus d'appart. Et puis ensuite, après...
sa mère se tape le mec de sa grand-mère.
Oui. Les viols à répétition, les grossesses non désirées, son fils qui meurt. Enfin, je veux dire,
mais
écoutez, là, il aurait plutôt...
Le total package.
Ça aurait été plutôt étonnant qu'elle ne devienne pas tueuse.
Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse, mais...
En fait, elle avait deux solutions à partir de là. Soit devenir tueuse, soit expliquer son histoire d'un transfert ou d'un brut.
Oui, pardon. ouais, ça, c'est sûr que là, il n'y avait pas, trop le choix. Et en plus, avec des enfants à nourrir, en effet, elle n'avait pas...
Bah, oui, en effet, je pense que c'est carrément... Enfin, je veux dire, je vois pas tellement quelle autre solution elle aurait pu avoir, à part, bon, je ne dis pas que tout met dans le crime, c'est une bonne solution, mais il faut a priori plutôt rester dans la légalité, si c'est possible, ceux qui nous écoutent. Même si vous avez vécu des choses très difficiles, eh bien, il s'agit de ne pas tuer des vieilles dames, voilà. Le meurtre de personnes âgées, je n'ai jamais une solution, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, elle n'avait pas tout à fait besoin de les tuer. C'est ça, c'est ce que disait aussi Juliette.
C'est ça. Ouais.
Donc, et puis, à la rigueur, elle aurait pu juste les violenter. A priori, la baston, elle aimait ça. Donc,
Oui, et ça les aurait un peu assumées. Elles auraient oublié, vu l'âge. Voilà. Non, c'est
mais
ça,
je me rends compte qu'en fait, cette année, on a quand même traité en majorité des meurtrières femmes. Si on regarde... Et je me dis que on est vraiment féministe en fait.
De ouf.
On ne s'arrête pas aux clichés, on ne veut pas cantonner les meurtriers au sexe masculin.
Oui, nous aussi femmes, nous pouvons vous tuer. Sachez-le.
Oui, c'est ça. Faites attention. Là, c'est sûr. Après, ça reste une écrasante majorité d'hommes. Mais ouais, j'aime bien traiter en effet des meurtrières. Je trouve ça assez passionnant. Et d'ailleurs, en faisant encore une fois les recherches pour cette affaire, c'est vrai que apparemment, les meurtrières sont souvent des meurtrières silencieuses, plutôt douces dans l'approche. Après, bien sûr, pas dans l'exécution, mais dans l'approche. Et en effet, elles sont souvent soit des femmes qui sont dans des métiers de soins ou dans le social, ou en tout cas, elles se font passer pour. C'est très courant.
Mais elles sont assez
il y a aussi.
Ouais.
Souvent, d'ailleurs, il y a très peu de meurtrières femmes, mais les meurtrières femmes, enfin, serial killers, c'est rarissime de rarissime, quoi.
Ouais,
parce que c'est souvent des motifs, de jalousie, souvent. Je trouve que la jalousie dans les meurtres qui sont perpétrés par des femmes, c'est souvent quelque chose qui revient.
Je sais pas, il y avait toi, t'as fait la vieille qui tuait des personnes SDF, Génie, c'était aussi pour les allocations.
Elle se ressemblait pas mal, ces deux tueuses.
Ouais, ça m'a beaucoup fait. Même si, en l'occurrence, la vieille qui tuait, elle était vraiment juste méchante. Même si, attendez, qu'on soit bien clair,
pour la thune,
Juana, je sais pas, tout à l'heure, on en parle comme d'une pauvre fille et tout, qui avait pas trop d'autre choix. Ça reste une grosse conne. Hein.
Oui, non, mais bien sûr, on ne la défend pas.
On
attention.
La déteste. Vraiment, on déteste Juana.
Et si vous regardez, parce qu'il y a un documentaire Netflix qui s'appelle La Dame du Silence, et les témoignages, forcément, des enfants, des petits-enfants, et très triste, surtout en plus au Mexique, c'est Abuelita, c'est des victimes. Et il y a un lien, alors je ne dis pas qu'en France, on n'a pas un lien à la grand-mère, mais la grand-mère, dans ces cultures, je trouve un quelque chose d'encore plus fort, et un positionnement dans la famille, et vraiment dans la proximité avec ses petits-enfants, etc. Donc, les témoignages sont hyper durs, alors qu'on pourrait dire, oui, bon, c'est des personnes plus âgées, on s'y intéresse un peu moins, ce qui est terrible, mais Mais le documentaire est pas mal d'ailleurs. Franchement, il est pas mal fait. Il est sorti il n'y a pas si longtemps.
Ah bah je le regarderai avec plaisir.
Ouais, puis c'est, moi, je connais moins la culture mexicaine. Pourtant, je suis passée au Mexique, mais pas à Mexico City. Donc, c'était intéressant et c'était amusant de voir les enquêteurs de l'affaire du monstre de Montmartre français qui témoigne dans le premier épisode. C'est assez ouf. Du coup, c'était très intéressant.
Mais en fait aussi, pour revenir à est-ce que Juana elle est méchante, je trouve dans l'absolu que les gens qui s'en prennent à des gens vulnérables, quels qu'ils soient, c'est les pires. Il n'y a rien de pire que de s'en prendre évidemment à un enfant, mais je trouve qu'une personne âgée, là, on dit que c'est moins important et tout, c'est vrai, mais ça reste quand même quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Enfin, c'est comme aller faire, je sais pas, une boucherie dans une unité pour handicapés en fauteuil. Enfin, quelle horreur, quoi. Enfin,
Et puis, mine de rien, pour étrangler quelqu'un, ça prend du temps.
Horriblement de temps.
Et ça, souvent, on le dit, mais en fait, ça prend énormément de temps. Enfin, c'est
5 minutes ou un truc comme ça.
C'est énorme. Enfin, tu vois, c'est franchement... Alors après, bon, j'ai vu quelques images un peu hardcore. Mais il n'y a pas que de la strangulation, il y a du sang, parfois il y a des trucs, il y a un peu plus que l'étranglement par moment, mais c'est, ouais, c'est, et ça, c'est, il y a plein de moments où on dit, même dans d'autres affaires, des crimes, on se dit, ouais, c'est un crime passionnel, il l'a étranglé, mais en fait, il a eu largement le temps de venir en arrière.
La personne, au début, elle tombe dans les bottes, mais il faut insister comme un malade, quoi.
Ouais, c'est ça, et il faut une force... je pense que, après, les vieilles dames, c'était plus facile, en effet, physiquement, mais quand bien même, je pense que le fait qu'elle ait cette force physique l'a bien aidée. Après, il y a le côté aussi, les vieilles personnes sont moins inquiètes, enfin, je veux dire, s'inquiètent un peu moins, sont moins vigilantes au bout d'un moment, et puis... il y avait cette offre du gouvernement.
Ouais.
Voilà, il y avait un prétexte tout trouvé qui tombait à
pic. Elle avait
pique,
bien prévu la chose. Hein, elle avait un modus operandi, comme tu le dis dans l'épisode. Enfin,
Elle était très forte. C'est marrant parce qu'apparemment, elle n'était pas la seule à aller justement essayer de shipper cette prime du gouvernement. Voilà. Mais ce qui est fou aussi, c'est que celle qui a été prise la première, le deuxième aussi est mort en prison. La justice n'a pas été rendue pour la deuxième qui a été arrêtée pour ses meurtres, quoi.
Mais est-ce qu'on est sûr que c'est elle, que c'est Juana, parce que
il y a des empreintes pour ces meurtres là, il y a des empreintes en tout cas, il y a pas d'aveu, c'est vrai, mais
peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas. Bon, a priori,
c'est fort possible, c'est fort possible.
De toute façon, la justice mexicaine, c'est pas non plus fifou, quoi.
Bah, moi, je suis hyper raisonnée. Enfin, je dis pas que les Mexicains sont aussi, aussi tarés que nous, que des Américains, etc. Mais c'est la première vraie serial killer. Parce qu'avant, il y avait eu un mec qui avait tué 4 prostituées en quelques jours. Mais sinon, il y en avait apparemment pas d'autres. Donc, je sais pas s'ils ont jamais identifié parce qu'ils étaient pas très au fait de... Voilà, mais c'est tard quand même. Nous, on a eu bien avant.
Oui, mais je pense qu'en France, il y a beaucoup moins de trucs de gang. Je pense qu'au Mexique, si t'es un sociopathe ou un psychopathe et que t'as envie de tuer des gens, juste tu t'arranges pour rentrer dans un gang et buter des gens. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de soulager ses instincts meurtriers.
Toute mortalité, il doit être un parmi les plus élevés au monde, je pense.
Je crois que c'était dans les 10 dernières années, le Mexique a récemment été au moins une fois le pays le plus dangereux au monde.
Ouais, ça c'est vrai qu'il a, il avait la Colombie était devenue plus sûre il y a quelques années, ça a switché et la Colombie est devenue plus sûre en effet que le Mexique. Mais non, c'est en tout cas c'est. Ça soulève pas mal de questionnements. Et j'ai été très étonnée aussi d'apprendre qu'il y a quand même pas mal de sportifs, quelques sportifs qui sont devenus criminels et à qui on a décelé ces traumatismes cérébraux.
On n'avait jamais entendu parler,
ouais,
ça.
C'est fou, ouais.
C'est incroyable.
Ouais. Mm. Non, mais comme quoi, il y a quand même des sports un peu trop violents, les gars. Faut
comme
se calmer.
Quoi, faites comme moi, ne faites pas de sport et lisez un bouquin. Ou alors, faites comme moi, ne lisez pas de bouquin. et rester les yeux dans le vague et pendant des heures. Moi, vous ne deviendrez pas.
N'importe quoi, on va prendre vraiment, mais t'es un mollusque, c'est pas vrai. voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Juliette, Capucine.
Bon, écoute, non, moi, le livre que tu as conseillé, enfin, moi, je pense que ça pourrait m'intéresser.
Ah, bah écoute, tu as beaucoup de chance d'avoir ce temps. Après, je pense qu'il y en a d'autres, je ne vais pas vous mentir, peut-être un peu plus sexy et captivant, mais je suis certaine qu'il est intéressant. Si, à un moment donné, tu veux faire une thèse sur l'histoire de la justice mexicaine, certainement. Non, en tout cas, déjà le documentaire Netflix est une première étape, pas mal.
Oui, c'est plus accessible.
En tout cas, merci à vous, merci à tous nos auditeurs. Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous aurons un prochain épisode dans 3 semaines. Je ne sais plus lequel c'est.
Alors, j'espère de tout cœur que ce n'est pas moi. Tu crois que c'est moi, Julie?
Non, je crois. C'est bon. Je sais pas si c'est Mickaël ou... Non.
J'espère ardemment que c'est quelqu'un d'autre que moi parce qu'écoutez, je ne serai pas du tout disponible.
Écoute, on va s'arranger, on est très... Non, mais très sinon,
je m'en sortirai quand même.
Non. Voilà, donc on essaye de vous faire un épisode dans 3 semaines. n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Encore une fois, si vous avez des idées d'affaires, des affaires que vous aimeriez qu'on traite, ça nous inspire toujours.
Moi, particulièrement bien les mystères. D'ailleurs, on a changé sur ça, Jenny, parce qu'au début, c'était toi qui aimais les mystères. Moi, ouais. J'étais pas du tout sensible et finalement, on a inversé.
C'est vrai.
Et toi, t'aimes bien maintenant les affaires psychologiques et moi, les mystères.
Ouais, c'est très vrai. Mais je vais me refaire un petit mystère bientôt.
Ah, les mystères, c'est merveilleux.
Ouais, non, c'est vrai.
Merci aussi à Evan Logérémon et Noémie Dourneau pour notre formidable générique que nous aimons toujours énormément.
Et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Ça nous fait toujours très plaisir.
En bien, parce que sinon, ça ne sert à rien.
Exactement, surtout pas sinon. Passez une bonne soirée et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.